Bonjour. J'ai la bouteille d'eau parce que j'ai un peu les chats dans la gorge qui continuent. En préparant notre prédication de ce matin, le passage qu'on va lire ce matin, il m'est revenu à l'esprit une anecdote, enfin une petite anecdote d'un film, enfin une réplique, on va dire, Mission Cléopâtre, où Édouard Baer, à un moment donné, le scribe, parle de la vie. Il dit « Je choisis la vie, je danse la vie, je chante la vie. La vie, pour lui, c'est des rencontres. » Voilà, si vous avez cette référence en tête, elle m'a fait un peu sourire ce matin. Parce que c'est ce dont on va parler ce matin, la vie. La vie, je ne sais pas que représente la vie pour vous, qu'est-ce que ça veut dire. Mais finalement, Édouard Baer n'était pas si loin que ça en parlant des relations. Et effectivement, ce matin, on va entamer une nouvelle série. Jusque-là, on était dans l'Exode avec le peuple d'Israël qui s'apprêtait à rencontrer Dieu, qui avait déjà commencé à rencontrer Dieu et apprendre à le connaître. Et aujourd'hui, on va commencer dans les lettres de Jean, 1, 2, 3 Jean, qui sont à l'opposé de la Bible, qui sont à la fin du Nouveau Testament, enfin quasiment à la fin. Et ces lettres, d'ailleurs, elles sont assez atypiques parce que ce sont des lettres dans lesquelles l'auteur ne salue pas. Il n'y a pas de salutation. On aurait l'habitude dans d'autres lettres que l'auteur salue ou dise à qui il s'adresse, mais il n'y a pas de salutation. Et pourtant, d'autres moments dans cette lettre, on verra que c'est quand même bien une lettre que l'auteur a voulu écrire. Et il n'y a pas d'auteur non plus, la personne ne se présente pas. Mais dès le début de l'Église, les responsables ont attribué ces lettres à Jean. Donc, ce serait malvenu aujourd'hui que des siècles après, on puisse remettre en question cela. Donc, première lettre de Jean. Jean écrit à des églises qui font face à un grand défi. D'ailleurs, cette lettre, elle est plutôt considérée à être comme une circulaire, une lettre qui est appelée à être lue par plusieurs églises. Et ces dernières, elles sont vraiment en train de vivre une vraie crise identitaire. Ce sont un peu les premières églises, hein, et déjà, il y a le doute qui est là présent au milieu d'eux. Certains de ces membres remettent en fait en question la nature de Jésus. Pour eux, Jésus n'est pas vraiment Dieu. Il serait qu'un simple homme, peut-être un peu plus sage que les autres, mais il n'est pas Dieu. Et il aurait un esprit nommé Christ qui serait venu au moment de son baptême et qu'il aurait quitté juste avant la croix. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas mourir, ne peut pas souffrir. Et du coup, cet esprit ne serait pas vraiment Dieu non plus, mais quelque chose qui s'en rapproche. Donc ces personnes qui sont dans l'Église remettent vraiment en question toute la pertinence de l'Évangile. Jésus n'est pas vraiment Dieu, il est qu'un homme, son esprit n'est pas vraiment Dieu non plus. Voilà, il sème le doute dans l'esprit des gens. Est-ce que finalement l'enseignement que les gens de l'Église ont reçu sur Jésus est vrai? Est-ce que Jésus était vraiment celui qu'il prétendait être? Et on sait que le doute peut vite s'installer. Et voyant cela, pour Jean, il y a une urgence. L'urgence de rétablir la vérité. Et du coup, il va poser le cadre dès le début de sa lettre. Et du coup, je vous propose de lire ses premiers mots en Jean 1, versets 1 à 4. C'est ça notre passage de ce matin. Jean 1, 1 à 4. Et on va lire dans la version du semeur. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. La fin du passage. Donc là, en fait, Jean se pose vraiment en témoin direct de Jésus. À trois reprises, il va insister sur le fait qu'ils l'ont entendu, ils l'ont vu de leurs propres yeux, ils l'ont contemplé, ils l'ont touché de leurs mains. Tous ses sens peuvent témoigner qu'il était auprès de Jésus et ce qu'il a vécu, il a bien vécu. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à pouvoir en témoigner. Il emploie le « nous » pour associer les autres disciples qui pouvaient encore témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Et Jean est plutôt bien placé, finalement, pour être ce témoin. Jean, c'est l'un des fils de Zébédée avec Jacques, et il a suivi Jésus depuis le début et tout au long de son ministère. Parmi les 12, il aura une place particulière. Comme Pierre et Jacques, il va faire partie du cercle le plus intime de Jésus. Il va être présent aux côtés de Jésus à des moments clés. Vous savez, ces moments pendant lesquels Jésus prenait juste 2 ou 3 disciples avec lui. Jean était parmi eux. Ce sera par exemple quand Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, quand Jésus a vécu la transfiguration, ça devait être une expérience hors du temps. Il était là quand Jésus a prié à l'agonie aussi à Gethsémané. Mais il a aussi également suivi tout le processus de la condamnation de Jésus jusqu'à le retrouver au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus. C'est d'ailleurs à lui que Jésus va confier sa mère alors qu'il est sur la croix. C'est probablement le seul des disciples qui était encore là à ce moment terrible. C'est lui aussi qui sera le premier des disciples à arriver au sépulcre et à croire à la résurrection de Jésus, après les femmes, bien sûr. Il a également vu naître et grandir l'Église après l'ascension de Jésus. Il deviendra d'ailleurs l'un des piliers de l'Église à Jérusalem. Paul va chercher précisément à le rencontrer après sa conversion. Tout cela pour dire que Jean connaissait bien Jésus, qu'il avait côtoyé de près. Et lui-même se considère comme le disciple que Jésus aimait. Les autres aussi auraient pu être ces témoins-là. Il n'y a pas de souci avec cela, c'est simplement... Voilà, Jean prend cette place de témoin et il écrit pour que nous ayons, nous aussi, ce message qu'il veut transmettre. Il va profiter de cette place pour annoncer ce qui est essentiel pour lui, à savoir que Jésus est la vie. Et au verset 1, comme on l'a lu, Jésus est présenté comme « celui qui est la vie ». Il va d'ailleurs reprendre cette appellation encore au verset 2, « celui qui est la vie s'est manifesté ». Et en y ajoutant encore cette nouvelle notion de la vie éternelle. La vie est vraiment présente dans ce passage, dans cette présentation en tout cas de Jésus. Il nous annonce cela pour être en communion avec nous, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, que nous parlions de la même chose et que nous ayons également la vie grâce à Jésus, même des siècles après. Alors comme on l'a dit, Jean pose le cadre dès le début et il annonce la couleur face aux dérives et aux fausses doctrines. Jean veut rappeler les fondamentaux, ce en quoi on croit, pour permettre du coup à ses lecteurs de garder le bon cap. Alors, il commence par rappeler, comme on l'a dit, que Jésus est la vie. Il n'en a pas d'autre. Il est appelé la vie parce qu'il a en lui la vie de Dieu. Il incarne lui-même cette vie-là. Le pain de vie, c'est lui. L'essence même de la vie, c'est lui. C'est lui qui la donne, qui la reprend, qui la gère comme il entend. Il est la vie. Mais finalement, qu'est-ce que ça implique pour nous de croire que Jésus est la vie? Qu'est-ce que ça implique de vivre avec Jésus? Et dans notre quotidien, comment est-ce que tout cela se concrétise? Alors, pour mieux comprendre le principe de la vie, comprendre comment elle est abordée, on va comprendre comment elle est abordée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 termes principaux en hébreu qui évoquent la vie. Quand ils sont utilisés, c'est essentiellement pour parler de la vie naturelle, la vie de l'âme, la vie aussi dans le sens de vécu, ce qui est en lien avec les émotions, avec notre personnalité, avec nos pensées. La vie naturelle, c'est la vie à l'opposé de la mort, finalement. C'est certainement la première implication à laquelle on pense. Dieu est celui qui a tout créé à partir de rien. De rien, il a formé la matière et il a donné la vie à cette matière-là. Il est lui-même la vie, donc il n'y a rien de plus simple pour lui que de donner la vie à quelque chose qui n'en a pas. Il insouffle juste son souffle de vie et voilà, la matière prend vie. C'est ce qui s'est passé pour nous. Comme on l'a vu, comme il la donne, il peut aussi la reprendre. C'est lui qui est vraiment et aux commandes. Et c'est valable pour tous sans exception. Et partout, la vie est présente comme quelque chose de précieux. À posséder comme une relation vitale avec Dieu. comme quelque chose dont il faut en prendre soin. Mais la vie, c'est aussi celle du quotidien, la vie que nous vivons, notre vécu, nos émotions, notre vie d'aujourd'hui. Et dans le Nouveau Testament, donc il y a deux mots grecs qui reprennent cette notion de vie naturelle, de vécu. Mais il y a toute une nouvelle notion qui est aussi développée, un troisième mot grec qui veut toujours dire la vie, hein, mais qui ajoute encore une précision supplémentaire. Il s'agit de zoé, ce mot grec zoé. Et ce mot, c'est intéressant de voir qu'il est beaucoup plus employé que les autres. Ça veut dire qu'il doit vraiment avoir une importance. Il est beaucoup plus employé que les autres pour parler de la ville dans le Nouveau Testament. Et tout particulièrement dans les livres qui ont été écrits par Jean. Et Jean, il le dira lui-même à plusieurs reprises, hein, il écrit pour que l'on ait la vie. Pour lui, la vie, c'est vraiment un thème qui lui tient à cœur. Alors effectivement, hein, quand nous croyons en Jésus, notre vie prend un nouveau sens. Tout d'abord, notre futur va prendre une nouvelle tournure. On parle de la vie éternelle. On n'est plus appelé à mourir. Après notre mort physique, nous pourrons vivre éternellement avec lui. C'est le sens de la vie éternelle dont on a l'habitude. En acceptant Jésus, ce que Jésus a fait à la croix pour moi, on est devenu en quelque sorte immortel. C'est pas en quelque sorte, on est immortel. Alors bien entendu, notre corps physique va retourner à la poussière, mais notre âme, elle ne va pas mourir. Elle est destinée à vivre éternellement avec Dieu. Quelle magnifique perspective, hein ? Dieu nous offre la vie éternelle, tout simplement une vie qui se poursuit après la mort, et pas n'importe quelle vie, une vie au paradis. Il y a cela dans Zoé, cette vie éternelle, mais Dieu nous offre encore autre chose. Zoé parle de la vie avec Dieu que l'on a grâce à la résurrection de Jésus. Mais le mot Zoé se rapporte surtout à la dimension de la vie éternelle dans le sens des actes qui expriment la communion qu'on a avec Dieu. En fait, la vie éternelle, c'est avant tout une relation avec Dieu. En résumé, en plus de la vie éternelle que l'on obtient avec Jésus, Zoé nous parle d'une relation que l'on a avec Dieu. En plus de la vie éternelle, cette vie éternelle-là, c'est avant tout une relation avec Dieu. Et cette vie, cette Zoé, c'est un don divin. Elle n'est pas temporelle, elle est éternelle. Elle est caractéristique du monde à venir, de ce que l'on vivra avec Dieu. Mais elle n'est pas que pour l'avenir, elle est déjà dans le temps présent. Elle ajoute vraiment une qualité supplémentaire à cette vie naturelle que l'on peut avoir. Elle ajoute un plus à cette vie que Dieu donne à chacun. Et Jean souligne cette réalité présente plus qu'il ne parle d'une récompense simplement pour l'avenir, glorieuse. Pour lui, comme on l'a vu, cette vie, c'est un thème majeur. C'est sa façon à lui de parler du salut. Il parle de salut en parlant de vie. Cette vie, c'est Jésus. En rencontrant Jésus, il a rencontré la vie, celui-même qui est l'essence de la vie. Alors quand Jean parle de la vie, il parle avant tout de la relation qu'il peut avoir avec Jésus, de son vécu avec Jésus. Et quand il dit « nous l'avons vu, nous l'avons entendu, de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, nos mains l'ont touché », il y a tout son corps, il y a tous ses sens finalement qui peuvent témoigner de cette proximité qu'il a avec Jésus, avec Dieu, c'est du concret. Il a pu le toucher, il a pu le voir, il a pu l'admirer, il a pu l'entendre parler, c'est pas seulement son intellect qui parle de Jésus, mais il veut nous dire que tout son être déjà a expérimenté ce que c'était que d'être en relation avec Jésus, de vivre à ses côtés. Il n'a pas seulement reçu la théorie, mais il a goûté à la pratique. Il est ce témoin vivant, il sait ce que c'est que d'être en relation avec Dieu. Et c'est en cela qu'il expérimente déjà la vie éternelle. D'ailleurs, quand on regarde les évangiles, hein, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, celui de Jean, il est quand même un peu différent des autres, dans le sens où il a fait un gros tri dans les événements qu'a vécu Jésus. Autant avec Matthieu, Marc et Luc, on a beaucoup de miracles, beaucoup d'éléments nous sont rapportés. Alors j'imagine qu'il y en aura encore plein d'autres. Mais Jean, lui, il a encore plus trié. Et il va sélectionner certains événements qui sont les plus importants à ses yeux, qui va rajouter des détails pour qu'on puisse s'imprégner aussi au maximum de ce qui est en train de se passer. tout est avant tout une question de relation. Et d'ailleurs, en Jean 17, verset 3, Jésus lui-même va donner une définition de ce qu'est la vie éternelle. Il va dire « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et moi, j'ai toujours pensé que connaître Dieu, c'était dans le sens de connaître son sacrifice, de savoir ce qu'il avait fait, et puis qu'en le connaissant, ben, on avait cette vie éternelle parce qu'on était sauvés. Mais voilà, il y a encore plus que ça. En connaissant Dieu, on découvre ce que Jésus a fait. Mais Jésus donne dans cette définition que la vie éternelle, c'est avant tout connaître Dieu dans une relation. Il y avait un autre passage aussi, de dire que Jésus nous donne déjà tout ce dont on a besoin pour vivre cette relation. Et c'est intéressant, je ne savais pas trop si je le mettais, et puis Michael en a parlé rapidement ce matin. Dans Jean 4, verset 14, cette femme samaritaine, qui est devant le puits, et puis Jésus s'adresse à elle, et puis elle cherche à savoir qui est là avec elle. Et Jésus va dire, mais celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En fait, la source d'eau, elle représente la vie, elle représente l'esprit que Dieu nous donne. Et pour paraphraser, donc, notre texte, là, c'est comme si cette eau, donc le souffle de vie, l'esprit que Dieu nous donne finalement, devient en nous une source même. Ce n'est pas nous qui allons juste puiser à la source, c'est que la source, elle est même là, en nous déjà. Une source de vie qui jaillira depuis jusque dans l'éternité. C'est complètement fou. Dinguerie. Incroyable. Il nous donne les moyens de vivre cette relation. Grâce à cette nouvelle vie que Dieu nous donne, nous devenons nous-mêmes porteurs de cette vie-là. C'est pas juste nous qui allons puiser, mais nous-mêmes déjà, avec son esprit, on a cette source en nous. Et c'est comme ça que par la foi, nous entrons vraiment dans cette relation vitale avec Dieu. On reçoit une nouvelle puissance, on reçoit une nouvelle vie, on reçoit tout ce dont on a besoin pour vivre cette vie aujourd'hui, au quotidien. Et dans le concret, alors, comment cela peut se passer? C'est quoi d'être en relation avec Dieu? Pour construire une relation, on peut s'inspirer des relations qu'on vit les uns avec les autres. C'est sûr que Dieu, on ne le voit pas, c'est plus difficile. On est connecté. Et moi, j'entends régulièrement mon mari le matin qui commence sa journée en disant simplement « Bonjour Seigneur ». Et ça m'a un peu surprise au début. Et puis en fait, j'aime aussi le faire maintenant. C'est une relation, ça commence tout simplement par ça, un bonjour. Bonjour Seigneur. Super. Et en fait, quand on commence ça, après on se dit, notre prière derrière, c'est pas tout de suite « Merci d'avoir fait ci pour moi, merci de... » Voilà, c'est plus déjà prendre du temps pour méditer, pour simplement profiter de sa présence, quoi. C'est plus des mots automatiques qui viennent, mais plutôt un temps de silence, simplement pour m'imprégner de ce moment-là et me dire « Waouh, je suis avec toi, Seigneur, que ça fait du bien !» Une relation, ça se vit dans les deux sens. Ce n'est pas juste nous qui allons profiter ou demander. Ou on sait tout ce que le Seigneur peut faire pour nous et on n'hésite pas à lui demander. On se sent à l'aise avec ça parce qu'on sait qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il peut répondre à nos prières. Mais à l'inverse, est-ce qu'on a conscience de tout ce que lui, il attend dans cette relation finalement? Le plaisir qu'il prend juste d'être avec nous? La joie qu'il éprouve quand on médite sa parole, quand on cherche à être avec lui? À mieux le connaître, à mieux savoir qui il est vraiment. Une relation, ça se construit aussi au fil du temps. Elle se construit au fil des expériences qui sont vécues ensemble. Et comme avec Jean, il est bon peut-être de se rappeler ce qu'on a pu expérimenter avec le Seigneur. Comment peut-être on a pu l'entendre nous parler à certains moments de notre vie. Comment on a pu l'entendre dans notre cœur quand on a pu lire un verset de la Bible et « Waouh, c'était pile ce qu'il me fallait à ce moment-là ». comment peut-être on le voit aussi agir dans des circonstances assez inattendues. On se dit, mais c'est pas du hasard. On a pu expérimenter aussi peut-être des sensations différentes, d'avoir une paix, alors que là, on devrait être stressé, de pouvoir réagir autrement. On se dit, mais c'est pas moi. Si ça avait été moi, j'aurais peut-être réagi comme ça, je me serais mis en colère. Mais là, non, rien. Tout ça, c'est du vécu avec le Seigneur. Ou encore se sentir porté, soutenu dans un moment difficile où on se dirait, mais là, j'aurais juste envie de m'effondrer. Et en fait, non. Mais tous nos sens à nous aussi, ils peuvent vraiment expérimenter et être les témoins de ce qu'on peut vivre avec le Seigneur. Et comme Jésus, comme Jean, pardon, on peut attester. Voilà, celui qui est la vie s'est manifesté. Je reprends le verset 2. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui s'est manifestée pour nous. Vivre cette relation avec Dieu, c'est déjà expérimenter la vie éternelle. La vie éternelle, en fait, c'est passer l'éternité avec Dieu, tout simplement. C'est être constamment avec lui. C'est vivre une relation avec lui. La différence entre aujourd'hui et le futur, c'est qu'aujourd'hui, ben, il peut y avoir des filtres un peu qui brouillent cette relation-là, mais rien ne nous empêche de chercher à construire cette relation malgré tout. Dieu nous en donne les moyens, comme on l'a vu, cette source de vie qui est en nous. Et en attendant qu'un jour, cette relation elle soit parfaite, quoi. Quand notre corps physique ben, nous aura lâché et qu'on pourra être définitivement avec lui. Et puis, dernier point, cette relation, on peut aussi l'expérimenter dans nos relations entre frères et sœurs, entre humains. On peut expérimenter ce que ça veut dire, l'amour de Dieu, par exemple, par l'amour qu'on peut avoir les uns les autres. Ou alors la libération qu'apporte le pardon, par le pardon qu'on peut s'accorder aussi les uns aux autres. Tout ça, on peut l'expérimenter et c'est un avant-goût aussi de ce qu'on peut vivre avec le Seigneur. Comme la joie d'être ensemble, la joie de la possibilité de faire la fête, de vivre l'unité, de la paix, la différence aussi, de s'accepter comme on est. Et Jean hein, le mentionne bien dans ses versets d'introduction. Quand on termine notre passage, c'était marqué au verset 4. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Son but, en fait, c'est que nous aussi, on comprenne ce message, qu'on puisse vivre, comme on l'a dit, cette relation avec Dieu et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et qu'on puisse déjà vivre cette unité ensemble. Et ainsi, leur joie soit parfaite. Cette relation, finalement, au début, elle était essentiellement entre le Père et le Fils, Dieu et son Fils. Et puis le Fils, il est venu en l'instaurant avec ses disciples. Et puis, grâce à leur témoignage, entre les croyants, qui nous permet à nous aussi d'être connectés à Jésus. Vivre de bonnes relations entre nous, finalement, contribue à vivre une bonne relation avec le Seigneur. Alors, en creusant ces quelques versets d'introduction hein, de cette première lettre de Jean, j'ai vraiment découvert que la vie éternelle offerte par Dieu à ses enfants est bien plus juste qu'un bel avenir en sa présence. La vie éternelle n'est pas juste pour le futur, mais elle est déjà bien concrète aujourd'hui. Et vraiment, elle se caractérise avec cette relation qu'on peut avoir avec le Seigneur. Tout ce que l'on a déjà pu vivre avec lui ici et maintenant, c'est que du bonus pour l'avenir. Alors qu'on en puisse en profiter déjà dès maintenant de ce merveilleux cadeau qui est la vie éternelle. Soyons convaincus que Dieu aime par-dessus tout être en notre présence. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, simplement merci. Merci pour ce cadeau magnifique que tu nous as fait. Au-delà de ce bel avenir que l'on va avoir en ta présence, comme on l'a déjà chanté ce matin, on en a parlé plusieurs fois, que ça fait du bien de pouvoir simplement être avec toi, d'avoir une place dans ta maison et de pouvoir dès aujourd'hui continuer à construire cette relation avec toi, d'être proche de toi. Quel privilège tu nous fais, Seigneur. Quel cadeau immense c'est de t'appartenir. Que l'on ne s'en prive pas, qu'on puisse en profiter au maximum. Merci d'être qui tu es. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.